Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Depuis que la pandémie de coronavirus et la crise économique ont démarré, en France, l'État a déversé des tombereaux d'argent sur les ménages et les entreprises. Le moment est venu de tirer un premier bilan et de se demander comment ces sommes importantes ont influencé la répartition des richesses dans la société française. Comment la France a-t-elle traversé la crise ? Pour ce qui est des niveaux de revenus de la population, le sait-on déjà, le quoi qu'il en coûte affiché par l'État a-t-il protégé les plus vulnérables ? Plus généralement, la France est-elle vraiment le pays égalitaire qu'elle prétend être, comme le dit la devise affichée sur le fronton de ses bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité ? Voilà les questions que nous évoquerons dans cette émission avec trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Louis Morin.
Bonjour.
Louis Morin, vous êtes sociologue, vous dirigez dans la ville de Tours, d'où vous nous parlez, l'Observatoire des inégalités, organisme indépendant qui publie depuis 2003 un rapport bisannuel sur les inégalités dans le pays. Vous êtes également l'auteur d'un livre intitulé Encore plus, Enquête sur ces privilégiés qui n'en ont jamais assez, c'est chez Plon. Avec vous dans cette émission, l'économiste Delphine Pouchin, bonjour.
Bonjour.
Delphine Pouchin, vous êtes maîtresse de conférences en sciences économiques à Sciences Po Lille, Lille d'où vous nous parlez. Vous y co-dirigez la préparation à l'agrégation de Sciences Éco et vous avez dirigé la rédaction d'un livre collectif intitulé « Économie des inégalités » chez l'éditeur Atlande. Et je termine ce tour de table par vous, Lucas Chancel, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Lucas Chancel, vous êtes le co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales et professeur affilié à Sciences Po. Je rappelle le titre d'un livre dont nous avons déjà parlé à cette antenne, Insoutenables inégalités, c'est publié aux éditions du Petit Matin. Bien sûr, des reportages dans cette émission. Nous avons rendez-vous avec Stéphane Burgat à Marseille pour parler aide alimentaire, avec Abla Jounaïdi qui évoquera les difficultés d'accès aux soins des plus modestes dans les banlieues parisiennes, et avec Solène Leroux qui nous entraînera dans les beaux quartiers pour parler hausse des prix de l'immobilier. Louis Morin, je le disais, vous publiez avec votre observatoire un rapport bisannuel sur les inégalités. Vous venez d'en publier un nouveau. Est-ce qu'on sait déjà si les inégalités ont augmenté en France à cause de la pandémie ? Est-ce qu'on le sait ?
Alors, on sait peu de choses en réalité. En France, à chaque fois, il y a beaucoup d'analyses qui se déversent. On a vu avec les gilets jaunes une sorte de gynécologie et aujourd'hui, on a beaucoup de, je dirais, de covidologie. Et donc, il faut être prudent par rapport aux statistiques. On a quand même des éléments de données qui montrent que les inégalités se sont accrues. En tout cas, que par exemple, le nombre d'allocataires de minima sociaux a augmenté. Mais il faut être très prudent par rapport à certains discours. On a entendu à l'automne annoncer comme ça 1 million de pauvres supplémentaires. Nous, on n'a pas ces données-là, on n'a pas ces éléments. En France, il faut du temps pour connaître les données sur les revenus. Les premières données sur les revenus de 2020 seront en réalité connues à l'automne de cette année. Hein, et ce seront des données provisoires. Donc il faut être prudent, ça ne veut pas dire qu'il faut nier l'impact d'une crise majeure. Hein. Une recul de la croissance de 8%, c'est du jamais vu depuis 1945 et à l'évidence, les conséquences vont être très lourdes pour les plus défavorisés.
Delphine Pouchin, vous avez le même pronostic sur ce qui va advenir des niveaux de revenus de la population française ?
Oui, a priori, alors effectivement, même s'il est encore très tôt pour se prononcer, l'ensemble, enfin en tout cas une très grande majorité d'économistes sont assez pessimistes. Je pense à un rapport de l'Oxfam, notamment, là, qui a interrogé
l'ONG,
beaucoup d'économistes.
Ouais.
Oui. Et la majorité des économistes interrogés, je pense que c'était presque 90%, estimaient que les inégalités allaient augmenter dans leur pays, même si c'est effectivement encore un petit peu tôt pour le dire. Et quand on regarde aussi les estimations de la Banque mondiale, on voit que les fourchettes sont extrêmement larges. On est entre, je crois, 200 à 500 millions de personnes. Donc l'incertitude est immense.
200 à 500 millions de personnes de plus qui vont devenir
qui pourraient basculer dans la pauvreté
dans le monde.
Fait, oui. Dans le monde du fait du Covid.
Oui. Alors, oui, insoutenables inégalités, le titre de votre livre, Lucas Chancel, est-ce qu'elles vont devenir encore plus insoutenables en France ?
Alors oui, peut-être que là on a parlé de ce qui se passait, pouvait se passer au niveau des plus modestes, des populations les plus pauvres. Et je pense qu'il faut regarder également ce qu'il s'est passé au cours des années 2020 en haut de l'échelle. Et en haut de l'échelle, ce qui se passe, c'est que les cours boursiers chutent en mars 2020 et puis repartent très vite à la hausse pour enregistrer des années records un peu partout dans le monde. Et en France, les milliardaires français enregistrent en fait une hausse de leur patrimoine qui est vraiment historique, qui est de l'ordre de 150 milliards d'euros supplémentaires entre janvier 2020 et janvier 2021. Donc d'un côté, on a le PIB, donc l'ensemble des revenus de l'économie qui chute de 8%. Comme on vient de le dire. Et puis de l'autre côté, on a cette croissance vraiment très forte des très hauts patrimoines. Donc là, on a en tout cas quelque chose qui est très clair, c'est un creusement des écarts par le haut.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une captation de la richesse nationale par ces milliardaires, Lucas Chancel ?
Il y a une captation de la richesse qui est créée sur les marchés financiers. Et ensuite, il y a potentiellement une réinjection de cette richesse pour acheter peut-être demain des entreprises qui auront fait faillite, pour acheter ici et là des salles de rédaction, des journaux qui se portent pas particulièrement très bien financièrement. Donc oui, il y a une captation de la richesse et puis ensuite il y a cette utilisation de la richesse par une poignée d'oligarques pour acheter différents pans de la société qui peuvent être profitables pour eux d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue politique.
Alors, il y a cette boursouflure de la richesse, Louis Morin. Est-ce que c'est ça qui compte le plus dans l'explosion des inégalités ou est-ce que c'est l'affaissement du revenu de...
Non, je pense que Lucas Chancel a tout à fait raison de souligner que trop souvent, on regarde les choses par en bas. Moi, je vais donner ces premiers chiffres parce que quand même, effectivement, il y a une situation des plus démunis. Je pense en particulier aux jeunes. On pourra en reparler, qui est vraiment délicate. Mais effectivement, il faut souligner que ça s'élève par le haut. Ça s'élève pas du tout seulement pour compléter. Il faut ajouter pour que au niveau des milliardaires, il y a aussi toutes ces catégories aisées qu'on oublie un peu, à mon sens, trop souvent, qui s'enrichissent. Le seuil des 10% les plus élevés. Alors, on n'est pas du tout au niveau des milliardaires, hein, des patrimoines financiers à gagner 8500 euros sur l'année, alors que le seuil des 10% d'en bas, bah, tout simplement, rien gagné du tout, à l'évidence. Hein. Donc, il y a aussi un enrichissement à ce niveau-là des catégories aisées de notre pays, et c'est quelque chose qui dure depuis d'ailleurs une vingtaine d'années, hein, cette stagnation du niveau de vie en bas et une poursuite de l'élévation des niveaux de vie supérieurs, pas uniquement des 1%, mais des catégories aisées. Et c'est ça, à mon sens, qui est au cœur des tensions de notre société.
Mais Delphine Pouchin, est-ce que vous pensez que, malgré tout, les aides que l'État a déversées sur l'économie française, hein, on parle de 100 milliards d'euros, qui sont et qui vont être déboursés, est-ce que ces sommes astronomiques vont compenser l'enrichissement des plus riches et arriver à stabiliser les gens les plus modestes ?
Oui, c'est une très bonne question et c'est pas sûr du tout. Ce qui est intéressant de rappeler, c'est que ces augmentations d'inégalités dues au Covid, elles s'inscrivent évidemment dans un contexte où depuis 30-40 ans, on a assisté à une augmentation extrêmement importante de ces inégalités. Et je pense aussi que c'est intéressant de regarder ce qui se passe, pas seulement en haut de la distribution des revenus, mais aussi en bas, parce que moi, j'ai l'impression que pendant longtemps, les économistes ont un peu laissé de côté cette question des inégalités parce que il y avait un peu cette idée que de toute façon, elles augmentaient, mais par le haut. Donc, c'était les plus riches qui s'enrichissaient. Ils s'enrichissaient plus vite que les moins défavorisés, mais donc, c'était pas forcément considéré comme un problème. Et on observe aujourd'hui, alors, en France, on n'en est peut-être pas encore là, mais dans un certain nombre de pays, et par exemple aux États-Unis, une augmentation des inégalités qui se fait aussi par le bas et qui évidemment, va poser aussi un certain nombre de problèmes. Alors, je suis d'accord sur le fait que l'étude de la situation du 1%, du 1 pour 1000, etc., c'est vraiment important et on doit beaucoup à Thomas Piketty, bien sûr, et à toute son équipe. Mais il ne faut pas oublier que les inégalités, elles peuvent s'accroître aussi quand la situation des plus défavorisés, effectivement, se dégrade. Et aujourd'hui, c'est le risque.
Alors, l'une des premières manifestations de la pauvreté, peut-être, d'une pauvreté exacerbée par la crise du Covid, c'est la difficulté pour certains à se nourrir. Exemple à Marseille, avec l'histoire d'un ancien restaurant, McDonald's, McDo, qui avait été réquisitionné, illégalement donc, par des habitants du quartier pour y monter en urgence une banque alimentaire pour répondre à la détresse des populations de ces quartiers défavorisés. Une occupation illégale, une menace d'expulsion, et puis finalement, le maire de la ville, Benoît Payan, qui vole au secours des habitants, la municipalité va acheter le terrain et sauver la banque alimentaire de l'expulsion, car les besoins dans ces quartiers défavorisés sont énormes et sont toujours là. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Stéphane Burgat à Marseille.
Soulagés, les bénévoles secouent symboliquement des trousseaux de clés. Leur projet, ça y est sauvé au moment où ils pensaient, comme Fatih Boiroy, que tout était perdu.
On est serein maintenant. Nous étions sous le coup d'une expulsion avec demande de concours de la force publique. Ah ben c'était imminent si la mairie n'avait pas réagi et on était à deux doigts d'être expulsé par le propriétaire des lieux.
C'est justement cette situation qui a convaincu le maire Benoît Payan de sécuriser un projet, selon lui, doublement utile dans des quartiers qui en ont cruellement besoin.
C'est un projet qui va créer de l'emploi, qui va créer de la solidarité, qui va montrer qu'un projet économique et social peut être pérenne dans ces quartiers quand les habitants prennent en main leur destin.
Car le projet s'est structuré en un an et demi, façade repeinte façon océan, une enseigne après M qui reprend malicieusement le logo du fast-food américain et à l'intérieur toute l'organisation d'un restaurant à destination des plus démunis.
Mais ici, on a le stock, là on garde tous les aliments, les dons des grossistes.
Il y a le frigo pour frier les légumes.
Après là, c'est le drive où on donne aussi les colis alimentaires pour les familles.
Daina fait partie de l'équipe des bénévoles, colis alimentaires, maraudes. Elle a découvert ce lieu tout d'abord en tant que bénéficiaire.
Moi aussi, j'étais en galère et je sais qu'est-ce que ça veut dire pour ces familles-là qu'ils ont besoin. Moi, avant, j'étais bénéficiaire comme eux. J'avais perdu tout. Pendant la période de Covid, j'ai perdu mon emploi. Comme j'ai une famille derrière moi, il fallait que je les nourrisse et tout. Et du coup, j'avais perdu tout, quoi. Tous les espoirs et tout. Il y avait le confinement, on pouvait pas sortir, on pouvait pas travailler. J'avais besoin des colis alimentaires. Et dès que j'ai repris mon travail, je suis devenue une bénévole comme tous les autres.
Et ici, la crise sociale est telle que certains bénévoles, comme Yazid Bendaïv, lancent des projets d'autosuffisance sur le site, comme de précieux jardins partagés.
L'homino, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a écrasé les salades.
Il n'a pas fait exprès.
Sorda, regarde.
Hey. Car toutes les volontés sont bonnes à prendre. L'approvisionnement repose essentiellement sur des dons de particuliers ou bien de grossistes, avec des légumes notamment invendus au marché d'intérêt national voisin. Des dons qui arrivent parfois même de villes en dehors du département, et heureusement.
Alors déjà qu'on avait de la précarité, on va dire, superficielle, là maintenant on s'est retrouvé depuis le Covid avec de la précarité profonde, vraiment enracinée. Ne serait-ce que de rester enfermé, de ne pas avoir à manger et tout, c'est une double peine. Et justement, bon, après il faut que ce changement se fasse, mais avec les pouvoirs publics. Parce que nous, à notre niveau, à nous, en tant que bénévoles et n'ayant aucune ressource, on va dire, de la part de l'État ou quoi que ce soit, on est voué à nous-mêmes.
Et l'étape suivante, eh bien, en plus de tout ce qui est déjà proposé ici, c'est de réouvrir une partie fast-food au public, mais version solidaire avec des menus qui seront à prix sacrifiés, voire même offerts en fonction des ressources de chaque client.
Un reportage signé Stéphane Burgat. Louis Morin, l'un des derniers intervenants, a une formule assez mystérieuse et en même temps très parlante. On est passé d'une précarité superficielle à une précarité profonde. Qu'est-ce que vous comprenez par ça?
Pour moi, la précarité profonde, c'est plutôt distinguer une forme de précarité conjoncturelle, c'est-à-dire dans une phase de crise. D'ailleurs, au passage, ce qui s'est passé en mars 2020, au moment du confinement, c'est une baisse du nombre d'emplois précaires puisqu'on a arrêté des CDD et de l'intérim. Bon, ça, c'est de la conjoncture, c'est-à-dire qu'il y a des fluctuations de court terme et puis on retrouve un emploi, on a un CDD, on revient un emploi. Et puis, il y a la précarité structurelle qui touche massivement les jeunes et massivement les moins diplômés, qui fait qu'aujourd'hui, il y a toute une période pour les peu diplômés qui durent plusieurs années, parfois une dizaine d'années, entre le moment où on quitte l'école et le moment où on peut vraiment faire sa vie de manière stable. Et ça, c'est la précarité structurelle, mais qui existait avant la crise. La question est de savoir si cette crise, quel est l'effet que cette crise va avoir. Soit il y a une reprise très rapide et là, la précarité conjoncturelle va se remettre à diminuer, soit il y a une reprise beaucoup plus lente et là, il faut avoir des craintes importantes parce que ces dernières années, on a eu une remontée de la précarité. On a passé le marche supérieur. Après, moi, ce que me semble dire ce reportage, c'est bien davantage les capacités qui existent dans notre pays de solidarité, d'entraide, de mobilisation qui sont considérables. Et ça fait vraiment plaisir. Et il faut aussi compter là-dessus pour aller de l'avant. Plus que, à la limite, les questions de besoins alimentaires, je pense qu'il ne faut pas, là-dessus, il faudrait poser les bonnes questions, mais ce reportage me semble annonciateur de choses positives, on va dire.
Delphine Pouchin, vous partagez ce point de vue, malgré tout, dans la difficulté, face aux inégalités, la solidarité, ça peut être un remède ?
Oui, bien sûr, mais alors c'est une bonne nouvelle. Bon, en même temps, c'est aussi le signe d'une certaine... peut-être défaillance de la part des pouvoirs publics. Je pense qu'on a tous en tête aussi, parce que c'était vraiment des images marquantes. Je me souviens de ces files d'étudiants qui faisaient la queue devant des centres de distribution alimentaire. C'était vraiment des images auxquelles on n'était pas vraiment habitués. Et heureusement, et on aurait bien aimé que ça dure. Et je trouvais que ce qui est intéressant aussi dans ce reportage, c'était le conflit entre deux formes de droit, en fait. On avait le droit de propriété, quelque part, du McDo. Je pense que vous disiez que c'était un McDo à la base. Et puis, d'autre part, une sorte de droit à l'alimentation qui est quand même normalement garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et évidemment, là, c'est positif de voir que dans ces cas de précarité profonde, on peut avoir ce droit à l'alimentation qui prend le dessus sur le droit de propriété.
Lucas Chancel, la France se targue d'avoir un État-providence puissant, d'avoir des amortisseurs sociaux très développés. Est-ce que cette crise le manifeste ou pas ?
Dans une perspective mondiale, c'est évident. C'est-à-dire que les pays riches, les pays européens ont utilisé les mécanismes dont ils disposent, l'État social, les filets de sécurité, pour permettre à une bonne partie de la population qui aurait pu se retrouver au chômage ou dans ces pays, on aurait pu enregistrer une hausse encore plus forte de la précarité, de la grande précarité. Et grâce à l'État social, il y a eu ces coussins qui ont amorti les chocs. Mais le fait est qu'il y a des trous dans la raquette. Il y a des trous dans la raquette pour les jeunes, il y a des trous dans la raquette pour certains publics précaires qui subissaient déjà depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies, les difficultés, la violence du système économique. C'est vrai notamment chez les jeunes, où on observe une hausse du chômage de 16% en un an, c'est considérable. Le chômage augmente pour tout le monde en France, il y a 300 000 chômeurs de plus depuis le début de la crise. C'est un chiffre qui est très important, c'est un renversement de tendance depuis ce qu'on observe depuis 2 ans environ. Et les jeunes sont les premières victimes de cette hausse-là. Donc il y a vraiment des trous dans la raquette. Et le fait de réaliser que oui, il y a une solidarité qui est forte en France et on peut s'en réjouir. Que oui, il y a eu aussi une intervention de l'État qui était forte et il faut s'en réjouir, comme dans l'ensemble des pays riches qui en avaient les moyens. Mais il y a aussi ces trous qui sont extrêmement préoccupants parce qu'on n'est pas capable encore aujourd'hui de gérer l'ensemble de ces situations et il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont vivre des situations extrêmement compliquées, extrêmement difficiles dans les mois qui viennent parce qu'on n'a pas réussi à adapter nos systèmes sociaux à ces situations-là. Et je pense notamment donc, aux jeunes et à la question du RSA jeunesse, donc un minimum de revenus pour les jeunes. En France, on est un pays où à partir de 16 ans, on peut aller en prison. 18 ans, on peut voter. Mais il faut attendre 25 ans pour avoir un revenu de solidarité active. Ce n'est pas le cas dans de nombreux autres pays européens.
C'était Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des inégalités en France face à la crise du Covid avec trois invités. Lucas Chancel, que vous venez d'entendre, Delphine Pouchin, maîtresse de conférence à Lille, et le sociologue Louis Morin, qui dirige l'Observatoire des inégalités à Tours. On parlait de Marseille il y a un instant. Louis Morin, c'est réputé être la ville la plus pauvre de France. Et puis, on parle aussi souvent dans les médias du département le plus pauvre de France, qui est la Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il y a des enclaves de pauvreté, des territoires qui sont marqués par la pauvreté en France? Est-ce qu'il y a, il y a une territorialisation de la pauvreté?
Alors, c'est un vaste débat. Alors, tout dépend, quand vous dites la ville la plus pauvre de France, non, si vous prenez des villes de plus petite taille, le taux de pauvreté est encore supérieur à Roubaix, par exemple.
Mettons la grande ville la plus pauvre.
Grigny, voilà, dans les grandes métropoles, oui, Marseille, certainement, les quartiers de Marseille. Le, je crois qu'il y a eu tout un débat sur... la périphérisation, on pourrait dire, de la pauvreté dans la France rurale, confondant des taux de pauvreté et des nombres de personnes pauvres et mettant complètement de côté la question de la densité. En réalité, et là, à Lille, on le connaît encore mieux, le taux de pauvreté est très supérieur dans les grandes métropoles. Roubaix et Lille, c'est qu'une seule métropole, finalement, on peut dire. Et que... C'est au niveau de ces grandes métropoles qu'on a le plus de pauvres et aussi les taux de pauvreté les plus conséquents. Si on regarde dans certains quartiers, on a des taux de pauvreté qui dépassent les 70%, parfois des quartiers qui comprennent des dizaines de milliers de personnes, aussi bien au nord de la France qu'au sud, autour de Nîmes, Alès et bien sûr les quartiers nord de Marseille. Et donc la pauvreté aujourd'hui, les situations les plus difficiles sont vraiment, vraiment dans ces grandes métropoles où on a des contrastes très forts, très très forts. Il suffit parfois de faire quelques kilomètres. Hein. Alors ça, là, par exemple, à Roubaix, entre certains quartiers, ou à Paris, entre certaines communes de l'Ouest parisien, pour avoir des contrastes gigantesques avec des poches de pauvreté très très importantes dans certains territoires. Mais la masse de la pauvreté, c'est pas la France périphérique, c'est pas la France périurbaine ou rurale, c'est vraiment ces grands quartiers des grandes villes et moyennes, hein, les moyennes. Une ville, citons une ville par exemple comme Alès, hein, à Alès on a des taux de pauvreté aussi très très importants dans certains quartiers.
Alès au sud-est de la France. Delphine Pouchet, là, vous êtes un peu la régionale de l'étape, entre guillemets, puisque Louis Morin parlait de votre ville, la ville de Lille-Roubaix où vous êtes établi.
Oui, alors effectivement, dans les Hauts-de-France, on retrouve ce constat que présentait Louis Morin. Lille, en tant que telle, tire à peu près son épingle du jeu, mais c'est vrai que la situation est compliquée, notamment pour les villes moyennes, en fait, qui ont beaucoup souffert d'une sorte de concurrence vis-à-vis de la grande ville de Lille. Je pense à des villes comme Douai, par exemple, qui subit un petit peu sa proximité, en fait, avec une grande ville comme Lille, qui concentre les activités, les emplois les plus diplômés, les mieux payés, etc. Toutes les activités aussi liées à l'administratif, qui sont sur l'île.
Alors, pourquoi les mieux payés sont-ils les plus diplômés? À quel mécanisme économique est-ce que ça répond, Delphine Pouchin?
Ça répond à ce que les économistes appellent une logique de capital humain, tout simplement. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une vraie corrélation entre les années d'études et puis le diplôme, qui protège énormément du chômage, même si ça a pu faire débat à un moment donné. Mais évidemment, le capital humain, c'est ce que recherchent les entreprises et c'est ce qui permet aux salariés d'être compétitifs et d'avoir une productivité importante. C'est-à-dire que sur un certain laps de temps donné, ils vont avoir une production qui sera plus importante parce qu'ils sont justement plus productifs et ça justifiera des salaires plus élevés.
Louis Morin, vous vouliez réagir à ce que disait Delphine Pouchin il y a un instant.
Tout à l'heure, parce que là, on est en train d'avoir deux communications à la fois. Je voulais juste citer l'exemple de Béziers dans le sud de la France et de Montpellier, hein, pas comme Douai et Lille-Roubaix. Béziers s'est fait aspirer toute une partie de sa population des emplois, et Béziers est aujourd'hui une ville en déshérence avec les conséquences que l'on sait. Je voudrais juste dire sur la question territoriale, il faut être très prudent sur les effets d'échelle. On considère par exemple très souvent que Paris est une ville bourgeoise. Ce n'est pas du tout le cas. Les grands arrondissements de Paris font chacun du nord-est, hein, font chacun plus de 200 000 habitants. C'est-à-dire que c'est plus que la belle ville de Tours dans laquelle je suis en ce moment. À l'intérieur de ces quartiers, de ces arrondissements qui sont le 18, le 19 et le 20e, on a des taux de pauvreté de ces quartiers-là qui sont tout à fait comparables à ceux qu'on va retrouver à Roubaix ou dans les quartiers nord de Marseille. Hein. Ce sont simplement des ensembles considérables. Un arrondissement de Marseille est beaucoup plus petit que ces arrondissements-là. Et donc, il faut se méfier. Hein. Faut se méfier, et avec une coexistence très forte entre des populations. Dans Paris, il faut parfois faire quelques centaines de mètres pour avoir une explosion des prix de l'immobilier. Sur le capital humain, tout ce qui est rare est cher. Et voilà, la question, c'est évidemment, il y a un lien entre le diplôme et le salaire. La question est finalement pas tant là que dans la surprime que dans ce pays on donne au diplôme et au titre délivré par le public, la croyance de l'emprise, pour parler du diplôme, pour parler comme François Dubé et Marie Durubella, et cette extraordinaire croyance qui a même à convaincre les chefs d'entreprise du privé, et qui fait que dans notre pays, à la sortie du système scolaire, malheureusement, cette étiquette va vous coller à la peau, surtout si vous n'avez pas de titre scolaire.
Pourtant, Lucas Chancel, ce sont des travaux que vous avez menés grâce à son système redistributif. La France corrige beaucoup mieux que certains de ses voisins européens les inégalités de revenus.
En fait, sur la nature du système redistributif français et sur sa capacité à réduire les inégalités, il y a souvent un malentendu. On compare l'Europe et les États-Unis, on voit que les niveaux d'inégalité en Europe sont plus faibles, et on en conclut que tout ça, c'est l'opération du système fiscal et social français, ou européen plus largement. Le système social et fiscal, c'est-à-dire les impôts d'un côté et de l'autre côté les versements de minima sociaux par exemple, c'est très important pour réduire la pauvreté, pour réduire les inégalités. Mais ce qui fait vraiment la spécificité du modèle français et du modèle européen plus largement par rapport au modèle américain, c'est la capacité en France à avoir des inégalités avant impôts, avant versement de minima
des allocations,
sociaux, hein. Des allocations, des inégalités plus basses qu'aux États-Unis. C'est donc la capacité d'avoir un modèle social qui est plus inclusif, entre guillemets, à la base. Pourquoi ? Eh bien, notamment grâce aux services publics, notamment grâce à des mécanismes comme le revenu minimum, le SMIC, et un ensemble de réglementations qui vont permettre de réduire ces écarts de salaire à la base. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas non plus trop se tresser de laurier, se satisfaire de la situation actuelle, parce que les tendances ne sont pas forcément les bonnes en France. Et là, on parlait de la rémunération associée au diplôme. Quand on regarde la fabrique des diplômes, où est-ce qu'elle en est, l'université française, là où les enfants issus des classes populaires vont faire leurs études, puisque les enfants issus des classes populaires sont largement sous-représentés dans les grandes écoles et davantage représentés à l'université, eh bien la France investit chaque année de moins en moins par étudiant à l'université. Donc on parle beaucoup souvent d'égalité des chances, et tout le monde est d'accord avec l'égalité des chances, mais en réalité en France, depuis 10 ans, on met de moins en moins d'argent, de moins en moins de ressources par étudiant, là où il faudrait en mettre largement pour permettre cette réelle égalité des chances et cette réelle égalité ensuite d'accès à des salaires qui permettent à chacun de s'épanouir. Et donc là, on est en train de faire une rupture avec ce qui crée la spécificité du modèle français.
Vous voulez dire que le système universitaire contribue à renforcer les inégalités, potentiellement ?
La, La tendance qui est prise par ce système universitaire où on sous-investit et en réalité on désinvestit chaque année encore un peu plus, clairement c'est une tendance inégalitaire qu'on est en train de prendre. Alors, et ça, c'est très préoccupant pour l'avenir.
On va passer à un autre domaine qui est marqué par les inégalités en France, c'est l'accès à la santé. Plusieurs associations ont dû aller à la rencontre des personnes vulnérables dans les quartiers périphériques de Paris pour qu'elles puissent se faire soigner. La santé n'est pas toujours la première des priorités pour les personnes les plus défavorisées. Exemple avec ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Abla Jounaïdi, tourné à Paris et dans sa proche banlieue.
Je vous laisse vous allonger.
Le centre d'accueil de santé et d'orientation de Médecins du Monde à Saint-Denis accueille en consultation les personnes en difficulté avec leur parcours de soins ou le plus souvent les oriente dans leur accès aux droits.
Vous n'avez toujours pas de couverture sociale ?
Refusé ailleurs car privé de couverture sociale, ce couple sans papier reçoit ici une écoute bienveillante.
Quand tu rentres même là, si tu as un problème, même tu guéris en même temps. Il faut comme si tu connaissais avant. En tout cas, c'est... je suis bien.
Le centre n'a pas encore retrouvé son affluence d'avant. Protocole sanitaire oblige, mais pas seulement. Adeline Gripon, coordinatrice du centre.
Alors on a une baisse, une grosse baisse de personnes. Alors on l'explique déjà parce qu'on a fermé une période. Et surtout, on pense les difficultés de déplacement des gens et puis la peur du déplacement. C'est-à-dire que... en période de confinement, on est contrôlé. Ici, on a 90% des gens qui sont en situation irrégulière. Plus après, on imagine que la précarité qui a augmenté fait que c'est compliqué pour les gens de se déplacer et que la santé passe en second. Que la priorité reste de manger, de trouver un toit et après, on s'occupe de sa santé.
C'est très long.
À Mantes-la-Jolie, dans l'ouest de l'Île-de-France, Hervé, SDF, attend toujours un logement, sa priorité. Dans ce centre d'une coopérative d'acteurs œuvrant à la santé des SDF, on propose la vaccination contre le Covid-19. La demande est forte. Habituellement, sensibiliser aux questions de santé prend du temps, d'après Leslie Laribert, la coordinatrice santé.
Non, c'est vrai que c'est pas forcément la priorité des personnes qui fréquentent le centre. Après, c'est quelque chose qui se travaille avec eux. Notre cœur de métier, c'est quand même le lien, l'accueil et le lien social ici. Et c'est en faisant ce travail de lien et de confiance qu'on peut aborder petit à petit les questions de santé. Mais c'est pas forcément la problématique principale. C'est pas ce qu'ils vont nous rapporter, en tout cas, de leur problématique au départ.
On va trouver la solution. Voilà. Et Hervé, c'est un bâton.
C'est ce même lien de confiance et la foi qui ont permis à Marie-Janine de tenir cloîtrée dans son 17 mètres carrés parisien. Cardiaque, diabétique, la septuagénaire d'origine mauricienne ne vit qu'avec 880 euros par mois, presque entièrement engloutie par le loyer et les frais de santé. Mais elle pouvait compter sur David, membre de la conférence Saint-Vincent-de-Paul et de l'association des petits frères des pauvres.
Je me sens vieillie, oui, fatiguée, plus. Je suis seule dans la maison, mais il y a les bons dieux avec moi et mes amis qui m'appelaient tous les 10 minutes. Merci David beaucoup pour ça. Je suis retraitée, je n'ai pas beaucoup de sous parce que je paye beaucoup. Je paye la télé, les téléphones et la mutuelle, il ne me reste pas beaucoup.
Elle a eu un sentiment de privation de liberté très fort, en plus de l'angoisse liée au risque de contamination. On a distribué quotidiennement pas loin de 250 repas par jour. Et ça, ça a fait du bien aux personnes comme Marie-Janine ou d'autres personnes qui, d'une part, sans ça, se seraient retrouvées sans rien. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à travers ça, ça a aussi permis à ces gens d'avoir un contact.
Donc ça, oui, non, mais alors, j'ai...
Un contact qui a permis à Marie-Janine de poursuivre ses traitements et de ne pas sombrer moralement.
Un reportage signé à Abla Jounaïdi dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, où nous parlons des inégalités en France avec trois intervenants. Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités à Tours, Delphine Pouchin, maîtresse de conférence à Sciences Po Lille, et Lucas Chancel, co-directeur de l'Observatoire mondial sur les inégalités à Paris. Louis Morin, quelle réflexion vous suscite ce reportage ? Est-ce que l'accès aux soins, l'accès à la santé, aux remèdes, est une question difficile dans ce pays pour les plus pauvres ? Est-ce que ça s'est accentué?
C'est presque une illustration de ce que disait très bien Lika Chancel au sujet de l'éducation. C'est-à-dire, premier point, on a un très bon système de santé qui est un des meilleurs au monde, qui a été complété avec la couverture maladie complémentaire. Il ne faut jamais l'oublier quand on critique ce modèle social. Mais deuxième point, ce que montre bien ce reportage, alors petite parenthèse, désolé, mais au passage, il montre aussi la mobilisation de beaucoup de gens pour lutter, et ça c'est très très positif. Il faut saluer ce travail. Ah, non, mais je le redis parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure au sujet de l'aide alimentaire. Il faut vraiment saluer tous ces gens qui aident au quotidien et sans qui notre système ne serait pas non plus celui qu'il est aujourd'hui. Mais bien sûr que, pour reprendre l'expression de Lika Chancel, il y a des trous dans la raquette. Il y a trop de gens aujourd'hui qui n'accèdent pas aux soins, qui ne savent pas à quelle porte frapper, qui ont des difficultés, ou qui accèdent. Et ça, c'est un point aussi très important, avec beaucoup plus de difficultés, par exemple, pour avoir un rendez-vous. Alors, si vous regardez, par exemple, la localisation des dentistes dans la région parisienne, c'est tout à fait spectaculaire, leur concentration dans l'ouest parisien, alors qu'il y a une demande très forte dans le nord et dans l'est, par exemple, ce qui joue sur l'accès au.
Il faut préciser à nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas que l'Ouest parisien, ce sont les beaux quartiers, les quartiers où vivent les gens les plus aisés.
Les quartiers très aisés de banlieue parisienne. Et puis, délai d'accès aux soins, mais aussi, différenciation de la qualité des soins, avec toute une partie de la population qui accède globalement aux soins. On est soigné dans notre pays, il faut pas dire le contraire, mais qui n'auront pas, je pense en particulier à l'optique et au dentaire, même si là aussi il y a des choses qui ont été faites récemment, accès au même type de soins que les autres. Et ça, c'est pas acceptable. Cette différence de traitement est totalement inacceptable. Donc, il y a encore à combler ces trous dans la raquette. Il y a de l'investissement à faire aussi dans le domaine de la santé. Je crois que la crise qu'on vit aujourd'hui le montre très bien. Il ne faudra pas l'oublier. Il ne faudra pas l'oublier en 2022, en France en tout cas.
Delphine Pouchin, est-ce que les femmes sont particulièrement victimes de la pauvreté ? Est-ce qu'il y a une pauvreté féminine plus que masculine ?
Alors, dans le domaine de la santé, oui, comme dans beaucoup d'autres domaines. Là, on voit bien que les inégalités sociales de santé, comme on les appelle, on a mis énormément de temps à en prendre conscience, à essayer de les traiter. On est peut-être inconsciemment encore marqué par cette idée du rôle de la responsabilité individuelle hein, dans la façon de se soigner, la façon de s'alimenter, etc. Et ça a pesé sans doute sur la prise de conscience hein, de ce problème, notamment des femmes, mais pas seulement dans les inégalités sociales de santé.
Se soigner, Delphine Pouchin, se soigner, se nourrir, ça n'est pas une responsabilité seulement individuelle ?
Non, bien sûr, on a bien montré que l'état de santé de la population, l'accès aux soins, etc., était extrêmement dépendant de variables sociologiques, du revenu, de la socialisation. On se soigne et on est d'autant mieux soigné que nos parents le sont. Donc la part de la responsabilité individuelle, y compris si vous prenez, je sais pas, le fait de fumer ou pas, etc., tout ça, ça dépend énormément de ce qu'on appelle en sociologie la socialisation. Et on le voit bien dans le fait que finalement, quand on essaie de réduire en fait les barrières financières dans l'accès aux soins, c'est toujours compliqué et l'utilité reste assez limitée parce que le problème n'est peut-être pas d'abord financier.
Lika Chancel, j'aimerais vous entendre sur les inégalités de genre, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que être une femme en France, ça amène à être plus souvent pauvre que si on est un homme ?
Alors je vais répondre à la question sur les inégalités de genre et si vous me permettez juste avant un point sur les inégalités de santé, parce qu'il y a en lien avec l'extrait qu'on a entendu il y a quelques minutes, je pense des résultats importants à avoir en tête sur les inégalités au niveau de la mortalité. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les communes les plus pauvres en France sont les communes où il y a eu une surmortalité plus importante, beaucoup plus importante, liée au Covid que dans les communes les plus riches, que dans les communes situées au-dessus de la moyenne des revenus des communes. Et pourquoi ça? Eh bien, au moins deux facteurs explicatifs. Le premier, on en parlait tout à l'heure avec Louis Morin, avec ces grands arrondissements parisiens, du nord-est parisien notamment, qui sont très peuplés. C'est la surpopulation, c'est la taille des foyers familiaux et rapportée à la taille des logements. Donc avec plus de propagation du virus, plus de promiscuité dans des petits intérieurs confinés. Et le deuxième élément, c'est le fait de se confronter au virus dans le monde du travail. Et donc on a ici des populations qui ont été en première ligne face à la pandémie. Des populations qui étaient les premiers de corvée, comme on les a appelés, en référence aux premiers de cordée, mot souvent repris par Emmanuel Macron depuis deux ans. Et donc ici, il y a vraiment une inégalité très forte face à la mort, face aux conséquences directes de ce virus, sans même parler des conséquences ultérieure de la crise économique qui probablement va impacter les plus pauvres plus fortement que les plus riches et au sein des catégories les plus pauvres de la population. Alors là, on a encore peu de données pour la France, mais on en a pour les États-Unis où on voit que les personnes les plus touchées au niveau de la perte d'emploi sont les minorités de couleur et au sein des minorités de couleur, ce sont les femmes plutôt que les hommes. Donc ici, on a vraiment ces différentes dimensions des inégalités sociales qui s'entremêlent, qui se recoupent et finalement qui s'exacerbent et notamment au sein de ces enjeux-là, la question des inégalités de genre qui reste extrêmement importante, extrêmement prégnante.
Alors, l'une des conséquences de cette pandémie, ça a été la recherche d'espace. Les gens qui en avaient les moyens ont quitté le cœur des grandes villes pour aller près de la nature, là où il y avait de la place, de l'espace pour bouger. Et cela a eu un impact sur le coût du logement dans ces zones privilégiées. Écoutez ce reportage éco-d'ici-éco d'ailleurs, signé Solène Leroux.
À côté de la Seine, non loin du Bois de Boulogne, se niche le quartier Parchamps-Albercane, l'un des quartiers les plus prisés de Boulogne-Billancourt. Ne pas se fier au bruit de la ville, très vite, on a l'impression d'être à la campagne.
Nous sommes dans un des très beaux jardins sur une parcelle de 1000 mètres carrés d'une maison Napoléon III.
Laurence Ramé est négociatrice au sein de l'agence Daniel Féo à Boulogne depuis une quinzaine d'années. Elle présente une des maisons à la vente dans le quartier.
Elle a plus de 6 chambres avec sa dépendance, avec des volumes importants, 60 mètres carrés dans la pièce de réception. Beaucoup de verdure, ce que recherchent maintenant les Parisiens et l'ensemble de la clientèle.
L'immobilier de luxe ne connaît pas la crise. 2021 marque la quatrième année de hausse consécutive du côté des prix comme du volume des ventes.
L'année 2020 et 2021, en tout cas le début d'année, restent deux très bons millésimes, ce qui est en contradiction avec ce qui était prédit au début de l'année 2020. La pandémie n'a pas du tout ralenti les ventes, au contraire.
Malgré les incertitudes liées au premier confinement l'an dernier, le secteur est constant. Le pouvoir d'achat de la clientèle fortunée a été épargné. Les restrictions ont aussi donné des envies de verre à ses acquéreurs.
La pandémie a accentué, si vous voulez, la recherche, retour à la nature, avec plus de calme, plus de verdure, plus d'espace aussi. Il y a un effet domino des Parisiens qui, finalement, a été très ancré sur la capitale et qui se reporte sur les villes limitrophes.
Et cette analyse concerne l'ensemble de l'Île-de-France. Toujours dans les Hauts-de-Seine, mais plus au sud de la capitale, direction Bagneux.
Je vous laisse vous installer deux minutes.
Jassem Haddad est mandataire chez My House Immobilier à Bagneux et dans les environs.
Actuellement, on a quand même beaucoup de Parisiens, Paris 14, Paris 15 et les villes limitrophes. Montrouge, Vanves, également Malakoff. Donc une population quand même assez riche, si je peux me permettre, en tout cas plutôt aisé, qui se rabat sur la banlieue proche.
Ici, comme à Boulogne, le marché est limité et très réactif. Les maisons et appartements restent moins d'un mois à la vente et nombreux se vendent dans la journée.
Énorme tension, on travaille beaucoup en off-market, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre les biens sur Internet pour les vendre. Étant donné qu'il n'y a pas assez de biens pour beaucoup d'acquéreurs, il suffit qu'on ait un contact tout de suite, deux ou trois, pour qu'on ait potentiellement des visites et des offres derrière.
Le profil des acheteurs a changé. Cette transition s'est faite très rapidement. Jassem Haddad travaille sur le secteur depuis 2016.
J'ai vu les profils acquéreurs changer. Avant, on travaillait beaucoup avec la clientèle locale. Aujourd'hui, on a beaucoup de Parisiens qui acceptent aujourd'hui passer le périph', alors qu'avant, ils n'osaient pas forcément.
Un phénomène qui renforce les inégalités de patrimoine. Les biens sont désormais quasiment inaccessibles pour les populations locales historiques, tant du côté de l'ultra-luxe comme à Boulogne.
On est entre 4,5 millions et 5 millions.
Que dans des banlieues initialement moins aisées.
C'est un vrai phénomène de gentrification, si je peux dire ça comme ça. Les Parisiens reculent sur la banlieue proche et les banlieusards anciennement limitrophes Paris se reculent encore beaucoup plus loin. Surtout que les villes aux alentours sont très chères, donc forcément ils sont obligés d'aller beaucoup plus loin dans le 94, voire dans le 91.
Et avec une hausse de 7% pour les maisons franciliennes, la région risque d'être de plus en plus inabordable pour les classes populaires.
Un reportage signé Solène Leroux, Louis Morin. Les classes populaires sont repoussées de plus en plus loin du cœur de la ville.
Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même pas l'exagérer. Je pense que les candidats à l'expatriation hors des murs du périphérique parisien ne viennent pas de la cité des Amandiers du 20e, mais d'autres quartiers. C'est l'élévation des prix fait que il y a un processus structurel, d'écartement. Le ventre de Paris des Mille Zola, c'est plus aujourd'hui les Halles, mais c'est quelques kilomètres du côté du nord-est. Donc il y a ce processus, il faut quand même rester très prudent, ça concerne une petite partie de familles aisées qui ont profité. Il y a une double conjonction, il y a des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles, une épargne qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup grossi, faute de pouvoir consommer, des gens qui ont des moyens très importants et qui du coup, en plus de leur patrimoine immobilier, s'ils en ont un de départ, vont pouvoir comme ça acheter dans ces quartiers-là. Mais voilà, il y a l'effet conjoncturel, comme tout à l'heure, et puis l'effet structurel d'implantation des populations.
Alors, Louis Morin, je vous coupe, parce qu'on arrive presque au bout de l'émission. Je voulais donner la parole à Delphine Pouchin. Lorsque nous avons préparé cette émission, Delphine Pouchin, vous me parliez aussi des inégalités liées à l'environnement. Et est-ce que c'en est là, la manifestation?
Oui. Bien sûr, on est en plein dedans. Le reportage illustre bien, d'un côté, effectivement, ce risque quand même, mais qui n'est pas nouveau, d'inégalité spatiale. Certains, à une époque, parlaient même de ghetto doré, etc. Si en même temps, on veut voir le verre à moitié plein, ça montre aussi ce besoin de nature et ce que certains ont appelé maintenant la biophilie. Et on sait qu'effectivement, le contact avec la nature, ne serait-ce qu'un contact visuel, améliore la santé. Quand on est, je sais pas, dans une chambre à l'hôpital, on va guérir plus rapidement. Il y a un lien vraiment prouvé sur le bien-être. Alors, quand on croise ces deux dimensions, effectivement, on est en plein dans cette question des inégalités environnementales que Lucas Chancel connaît aussi très bien. Et on sait que ce bénéfice des aménités environnementales est distribué de manière effectivement très, très, très inégalitaire.
Eh bien, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous trois, Lucas Chancel, Delphine Pouchin et Louis Morin, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous podcaster, nous réécouter sur votre smartphone via l'application Pure Radio. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Soyez au rendez-vous.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Tout à l'heure,